Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir, le Journal des voisins et la Presse. Au programme, contre l'école robotisée. L'Ukraine, côté or, côté bombe. Une Ahuntsicoise veut recycler la laine tondue au Québec. Et Jeudi vert de l'Arctique, célébrer le sport à la culture inuite. Bonne écoute.
Contre l'école robotisée. Un texte de Louis Cornelier, paru dans l'édition du samedi et dimanche 8 janvier 2023 dans Le Devoir magazine. Vous pensiez peut-être, comme moi, que la pandémie avait définitivement mis un terme à l'enthousiasme pour l'école numérique et pour la formation à distance. Forcé, par les circonstances, à expérimenter ces méthodes, les élèves et les enseignants, après des mois, n'en pouvaient plus et criaient grâce. Depuis, on constate douloureusement que ces méthodes ont eu des effets catastrophiques sur les résultats scolaires et sur la santé mentale des jeunes. L'école à l'écran, c'était peut-être mieux que rien, mais ça ne remplaçait pas, loin de là, l'école en présence. Vous pensiez donc peut-être, en toute logique, que les turiféraires de l'école numérique battraient enfin en retraite devant l'évidence de l'échec de leur programme. Eh bien, détrompez-vous. Dans les actuelles négociations des conventions collectives du personnel enseignant du réseau collégial, la partie patronale, composée de la Fédération des cégeps et du ministère de l'Enseignement supérieur, plaide pour le virage numérique. Tous les poncifs techno-fétichistes sont invoqués pour justifier ce parti pris. Il faudrait, écrivent les patrons du collégial, adapter la formation à la réalité de demain, faire preuve de souplesse et d'innovation, permettre ainsi une meilleure gestion du temps et limiter les déplacements. Bien sûr, il y a des obstacles sur ce chemin ensoleillé, comme la résistance au changement des enseignants et l'incompétence numérique de ces derniers, mais aller de l'avant s'impose. Que les élèves et les enseignants, dans leur majorité, refusent ce modèle, que l'expérience pandémique ait illustré l'indigence de ces méthodes, cela ne change rien à l'affaire. Les dirigeants, sans consultation démocratique, mais sous l'influence de lobbies, ont décidé. L'avenir de la formation est dans le numérique et à distance. C'est précisément ce discours aussi proposé à l'échelle mondiale par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, que dénoncent avec virulence et brio Éric Martin et Sébastien Mussy, tous deux professeurs de philosophie au collégial, dans « Bienvenue dans la machine, enseigner à l'ère numérique, Éco-société 2023, 184 pages ». La catastrophe est là, écrivent-ils. Nos décideurs ont conçu et réalisé une société obsédée par le développement économique et technologique sans égard pour le respect de ce qui fait l'humain, le commun, la nature, la vie en général. Cette obsession colonise maintenant jusqu'à nos institutions scolaires. Être humain, ajoute-t-il, c'est vivre en communauté, avec autrui, cultiver l'empathie, la sensibilité et la solidarité ainsi que l'ouverture à la beauté du monde. Or, note-t-il, l'école informatisée est précisément la négation de ces rapports sensibles et concrets au profit d'une virtualisation et d'une robotisation du rapport pédagogique qui ne profite qu'aux vendeurs de trucs et de bidules. Les méfaits de la formation numérique et à distance sont connus et documentés. Baisse de la motivation, perte d'attention et de mémorisation, encadrement pédagogique insuffisant, augmentation de la tricherie et, par l'absence de socialisation entraînée par ce modèle, baisse de la capacité d'empathie et augmentation du sentiment de solitude. En gros donc, c'est un échec sur les plans scolaires et humains. Une étude des chercheurs Christian Boyer et Steve Bissonnette a d'ailleurs montré que, même avant la pandémie, les écoles virtuelles, au primaire et au secondaire, aux États-Unis principalement, obtenaient des résultats négatifs pour l'ensemble des enfants. Cette informatisation de l'école, soulignent aussi Martin et Mussy, coûte extrêmement cher, rend les institutions dépendantes des géants du numérique et n'a absolument aucune vertu écologique, malgré ce qu'en disent ses partisans. Toute cette quincaillerie informatique pollue abondamment. Il faut être ignorant ou menteur pour lier l'école numérique aux soucis écologiques. Le pire, c'est la déshumanisation qui nous guette. Le rôle de l'école, écrivent Martin et Mussy, n'est pas de formater la jeunesse en vue d'en faire une main-d'œuvre polyvalente au service des priorités technico-économiques étroites d'une élite à courte vue, mais de former des citoyens capables de comprendre le monde culturel et naturel dans lequel ils arrivent et auquel ils souhaitent contribuer en toute conscience avec les autres. Pour remplir vraiment ces missions, insistent Martin et Mussy, l'école n'a surtout pas besoin de plus de machines, mais de locaux physiquement accueillants, de classes à échelle humaine, de bibliothèques avec des vrais livres, de cours d'art multiples et d'un personnel enseignant et parascolaire en quantité suffisante. Les élèves ne sont pas des ressources qui doivent s'adapter à des machines afin de doper la croissance économique. Ce sont des êtres humains, citoyens en devenir, qui ont besoin d'être humains. C'était « Contre l'école robotisée », un texte de Louis Cornelier, paru dans l'édition du samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 dans Le Devoir magazine. L'Ukraine, côté art, côté bombe. Un texte d'Odile Tremblay, paru dans l'édition du samedi 18 et dimanche 19 février 2023 dans Le Devoir magazine. Un an déjà de guerre meurtrière en Ukraine. Le maître du Kremlin la prévoyait courte et victorieuse. Vanité humaine et erreur du lanceur. Ces 12 mois d'horreur nous auront offert un cours accéléré de politique internationale contemporaine, avec ses feintes, ses mensonges, ses résistances, ses héroïsmes, ses jeux d'alliance, ses massacres, ses peurs occidentales d'en faire trop ou trop peu. Ajoutez la crainte éperdue d'un conflit mondial, à l'aide ou pas d'étranges objets volants capables de court-circuiter des ondes chez l'ennemi. Pour les amateurs d'œuvres d'anticipation, un scénario de film. La fiction et la réalité semblent se rejoindre, comme les parallèles à l'infini. L'art est au front là-bas. À cause du passé du président de l'Ukraine, qui connaît la musique. Signe des temps aussi, car la culture se voit désormais brandie ou dénoncée au nom des causes les plus diverses. Au long de l'histoire, l'art servit de cible, de javelot et de butin aux belligérants de tout poil. Mais le phénomène prend le mort aux dents. Dans cette épopée, un visage en gros plan, celui du président Volodymyr Zelensky. Difficile de ne pas admirer son courage, transmis à un peuple debout. Sans doute impressionne-t-il Vladimir Poutine aussi. En perpétuelle tenue de camouflage, l'ancien acteur sait jouer les cartes de la représentation. À lui, la vedette de cette pièce cruelle, sanglante, shakespearienne, pleine de bruit et de fureur. Enfin stratège au secours de sa patrie assiégée, il n'entend pas céder son temps d'antenne. Sinon, des sympathies internationales s'effriteraient peut-être, des envois d'armes à l'avenant. La star guerrière démultipliée à l'écran, joue la survivance de son pays. Dans maints festivals et galas culturels, par visioconférence, on le voit s'adresser aux artistes, à leurs alliés, à leurs spectateurs, demandant aux forces progressistes de jouer les cariatides de soutien. Zelensky y parle d'art et de résistance. Rarement la guerre et le monde de la culture n'ont autant communiqué que durant ce conflit-là, avec renvoi d'ascenseur permanent. À la 73e Berlinale, qui a démarré jeudi, 9 films, surtout documentaires, sur la vie des Ukrainiens en temps de guerre sont projetés. Le plus prestigieux, Super Power, des Américains Sean Penn et Aaron Kaufman. Le cinéaste de The Pledge et de Mystic River voulait au départ tourner un documentaire à Kiev sur la carrière de Zelensky. Cet ancien interprète d'un président ukrainien dans la série Serviteur du peuple, catapulté chef du pays, le fascinait. Sous la pandémie, ils ont communiqué par Zoom, puis au lendemain du débarquement de l'équipe américaine en Ukraine, l'invasion russe vint brouiller leurs cartes. Penn est demeuré là-bas, interviewant l'artiste politicien transformé en héros de guerre, rendant hommage à son peuple de concert. Le président de l'Ukraine, tête d'affiche du film, s'est adressé à l'auditoire berlinois vendredi. La boucle est bouclée. Les artistes assiégés ont rivalisé de créativité et d'ingéniosité pour dénoncer l'assaut de l'armée de Poutine à coups de vidéos, d'affiches, de photos, de tableaux en pied de nez à l'envahisseur. Avant tout, pour remonter le moral des compatriotes sur la ligne de feu. Des sculpteurs participaient à l'effort de guerre en coordonnant des soudures anti-chars. Des conservateurs vidaient des musées de leurs œuvres pour leur éviter les bombes. Reste que plusieurs trésors nationaux sont partis en cendres, à l'instar de nombreux théâtres et bâtiments patrimoniaux. Ces citoyens modèles de résilience demandent aux sympathisants étrangers d'apprendre à connaître leur littérature, leur musique, leurs films, leur graphisme. Car la population se bat aussi pour défendre sa culture. Cette dernière, en général mal décryptée, longtemps annexée au patrimoine russe, s'est exporté, ironie du sort, sous le fracas des missiles. Des musiciens furent les invités d'honneur des plus grandes institutions occidentales, avec mise en lumière de talents. Des festivals présentent les œuvres de leurs cinéastes. On a pu voir en mai dernier au Théâtre Centaure, grâce à Michel-Marc Bouchard, Leslie Baker et Ida Holmes, le spectacle Paroles ukrainiennes, nourri de textes de dramaturges nationaux. En parallèle, tant d'artistes russes se sont vus boycottés sur nos scènes et à l'étranger depuis le début de cette invasion. Parfois, je me désole qu'on coupe le sifflet à des êtres sensibles quand leurs dirigeants politiques perdent le nord. L'art est une arme de guerre, je sais, faut comprendre, mais que sa substance demeure fragile. On lui souhaite une paix prochaine, comme aux humains chers à canon dans cet enfer. Aujourd'hui, nos vœux s'envolent au vent. Demain, on les relancera. Plus tard aussi. C'était l'Ukraine côté art, côté bombe, un texte d'Odile Tremblay, paru dans l'édition du samedi 18 et dimanche 19 février 2023 dans Le Devoir magazine.
Une Ahuntsicoise veut recycler la laine tondue au Québec. Un texte de Stéphane Desjardins, paru le 22 février 2023 dans le journal des Voisins. La plupart de la laine tondue au Québec finit au dépotoir. La Ahuntsicoise Véronique Dubé veut la revaloriser pour l'utiliser comme fertilisant en agriculture urbaine. Citation : « Jetons des moutons depuis presque 3 ans. Je me déplace chez des éleveurs basés un peu partout autour de Montréal. C'est une habileté particulière pour laquelle il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fin de citation, explique Véronique Dubé. Cette dernière s'est mise à récupérer la laine jetée par les éleveurs. La compétition des fibres synthétiques, la baisse des prix de la laine et la production de pays comme la Nouvelle-Zélande découragent la réutilisation de la laine d'ici pour la fabrication textile. D'autant plus que les éleveurs produisent de la viande de consommation et que la laine de ces races de moutons se prête mal à cette production car elle est piquante et qu'on ne peut la porter directement sur la peau. De plus, il n'existe pas d'infrastructure de traitement de la laine basée chez nous. Une lacune qu'entend remédier Véronique Dubé avec Lanoly, son entreprise en démarrage. Sociofinancement pour démarrer Lanoly. Son projet fait l'objet d'une campagne de sociofinancement sur La Ruche, lancée début février et qui se terminera à la Saint-Patrick le 17 mars. NDLR, Fête nationale de l'Irlande, pays des moutons. L'objectif est de récolter 6 000 $. S'il est atteint, Recyc Québec ajoutera 3 000 $. L'entrepreneur puisera aussi dans ses économies pour financer l'achat de machines qui serviront à déchiqueter la laine et la compresser en granules. Il s'agit d'un projet de 18 000 $. Au moment d'écrire ces lignes, la campagne avait atteint 27 % de son objectif. Lanoly offrira ses granules aux agriculteurs urbains. Citation, « On les met dans ou sur le sol et elles servent de fertilisant naturel et graduel », explique Mme Dubé. Car la laine brute contient plusieurs produits, comme la lanoline, le suin et du fumier. De plus, elle repousse les escargots et les limaces, qui représentent un gros problème en agriculture urbaine. Et la laine augmente la rétention d'eau et la porosité du sol. Fin de citation. En outre, les granules de laine sont riches en azote. En comparaison, les fertilisants riches en azote brûlent souvent les plantes à cause de trop grandes concentrations au moment de l'épandage. Les granules de laine, elles, relâchent leur azote lentement, ce qui représente un avantage indéniable en leur faveur. Autre avantage du projet, les éleveurs doivent payer pour se débarrasser de la laine. Véronique Dubé espère un jour leur offrir un incitatif financier, comme une réduction sur le prix de la tonte. Elle vise à lancer la production pour la prochaine saison horticole au printemps. Les produits seraient vendus dans les boutiques Zéro Déchet et pendant les événements tenus par le réseau Cultivé Montréal, comme la fête des semences qui avait lieu début février. C'était « Une Anticoise veut recycler la laine tondue au Québec », un texte de Stéphane Desjardins, paru le 22 février 2023 dans le Journal des voisins.
Vers de l'Arctique, célébrer le sport et la culture inuite. Un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Les athlètes du Yukon sont ceux qui ont remporté le plus de médailles à la 26e édition des Jeux d'hiver de l'Arctique, qui se sont conclus le samedi 4 février 2023 à Fort McMurray, en Alberta, après une semaine d'épreuves. Au total, 1700 participants répartis en 8 délégations ont pris part à la compétition, dont le Nunavik, le Nunavut, le Groenland, l'Alaska et le Yukon. Les athlètes de la péninsule du Yamal en Russie étaient exclus cette année à cause de la guerre en Ukraine. Plusieurs disciplines étaient au programme. des sports connus comme le curling, le patinage artistique ou le basketball, mais aussi des disciplines traditionnelles inuites comme les sports arctiques et les jeux d'aînés, soit des épreuves d'habileté physique et mentale. Par un froid soir de novembre 2022, lors d'un passage au Groenland, la presse avait rencontré l'équipe nationale des Jeux d'hiver arctiques qui s'entraînait dans un petit gymnase de la capitale, Nuuk. La troupe fondait beaucoup d'espoir sur sa vedette locale, Stephen Knulst. Le jeune homme de 27 ans n'aura pas déçu. Il a terminé troisième de sa division au classement général des sports arctiques à Fort McMurray en remportant 5 médailles. Ancienne enseignante d'éducation physique, professeure de psychologie et de musique et réalisatrice, Dida G. Heilmann suit l'équipe du Groenland depuis des mois. Selon elle, les sports arctiques et les jeux d'aînés sont trop peu connus à travers le monde. Il faut faire connaître notre sport, c'est notre culture. Même ici au Groenland, c'est trop peu connu, dit-elle. Madame Heilmann explique que pour plusieurs jeunes Inuits qui vivent dans des milieux où les enjeux sociaux sont importants, prendre part aux sports arctiques est une façon de se retrouver. Sans s'étendre sur le sujet, Stephen Knulst reconnaît que c'est son cas. « J'ai un passé criminel. J'ai consommé de la drogue. Mais en 2012, un ami m'a fait découvrir le sport. Ma vie a changé, » dit le jeune homme. La fierté par le sport. Les sports arctiques consistent en 15 épreuves distinctes, dont plusieurs de sauts où les athlètes doivent atteindre avec leurs pieds ou leurs mains un morceau de phoque pendant au bout d'une corde à différentes hauteurs. Il y a également une épreuve de triple saut et une autre où les participants doivent s'agenouiller avant de bondir le plus loin possible, saut à genoux. Des épreuves de force sont aussi au programme des sports arctiques. Pour le tir de la tête, deux concurrents sont étendus sur le ventre et se font face. Ils doivent passer une bande de tissu autour de leur tête et, au signal de l'arbitre, tirer le plus fort possible. Le premier qui lâche perd. Stephen Knulst est particulièrement fort dans cette épreuve. Il a remporté la médaille d'or cette semaine à Fort McMurray. Le jeune homme a également remporté, entre autres, une médaille d'argent en saut en hauteur à deux pieds en atteignant une cible à 238,8 cm, une médaille d'argent au triple saut, 9,94 mètres, et une médaille de bronze au saut en hauteur à un pied, 274,3 cm. Dida G. Heilmann explique que chaque épreuve des sports arctiques et des jeux d'aînés a une signification et tire son origine de compétences autrefois utiles pour les peuples vivant dans le Nord. Une épreuve des jeux d'aînés consiste en un tir au bâton graisseux où les participants doivent tirer le plus fort possible sur un bâton enduit de graisse. Ça reproduit le fait de tenter de saisir un poisson à main nue, explique Mme Heilmann. Le saut à genoux est, pour sa part, comme si vous étiez assis sur la glace et que vous deviez vous sauver rapidement parce que ça casse, ajoute-t-elle. L'épreuve la plus difficile des sports arctiques est sans contredit le saut sur jointure où les athlètes doivent se positionner comme s'ils allaient faire des pompes et avancer le plus loin possible en sautant sur leur jointure. Le gagnant de cette année, Chris Stipdonk, des territoires du Nord-Ouest, a parcouru ainsi 57,3 mètres. Pour Mme Heilmann, ce qui est formidable avec les Jeux d'hiver arctiques est l'esprit de camaraderie qui y règne. Tout le monde s'encourage, se donne des trucs. On est en compétition, mais en même temps, on veut s'aider, dit-elle. Les prochains Jeux d'hiver arctique auront lieu en 2024 en Alaska. Les Jeux d'hiver arctique, en bref, équipe, Yukon, territoire du Nord-Ouest, Nunavut, Nunavik, Groenland, Alaska, nord de l'Alberta, Sapmi, soit les peuples autochtones de Norvège, de Suède et de Finlande. Épreuves. 20 sports dont le ski alpin, le tir à l'arc, le basketball, le volleyball, le patinage artistique, le futsal, les sports arctiques et les jeux d'aînés. Ou dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, en Alberta, dont la localité principale est Fort McMurray. Quand? Les Jeux se sont tenus du 29 janvier au 4 février 2023. Classement final. 1. Yukon. 2. Alaska. 3. Nord de l'Alberta. 4. Territoire du Nord-Ouest. 5. Groenland. 6. Nunavut. 7. Nunavik. 8. SAPM. S-A-P-M. C'était Jeux d'hiver de l'Arctique, célébrer le sport et la culture inuite, un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Jocelyne Langevin et Claire Dorion à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.